Voici le journal de Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, la Catalogne et l'Espagne à nouveau au bord du précipice. Madrid menace d'utiliser son arme ultime, la mise sous tutelle de la Catalogne. Le processus est lancé, il reste 5 jours avant que Madrid n'appuie définitivement sur le bouton. Les députés catalans doivent se réunir aujourd'hui. Autre réunion, celle des ministres européens du travail aujourd'hui à Bruxelles. Au cœur des discussions, la réforme de la directive des travailleurs détachés, un dossier décisif pour Emmanuel Macron. L'hôpital coûte-t-il trop cher à la sécurité sociale? C'est l'avis de la ministre de la Santé qui demande à faire 3 milliards d'économies. La République en marche à la recherche d'un chef. Il reste près de 3 semaines au parti du président pour le choisir. Lui est à la tête de sa nouvelle organisation, mais il cherche encore la direction. Dans 20 minutes, Marc, vous recevez un ex-socialiste, vous recevez Benoît Hamon.
Oui, il lance aujourd'hui une grande consultation pour repenser la gauche. Mais y a-t-il encore un espace politique face à l'omniprésent Jean-Luc Mélenchon? Lui posera la question et on attend les vôtres dès maintenant. 01 45 24 7000 pour interpeller Benoît Hamon. Vous avez également le Facebook Live de France Inter et sur Twitter, le mot-clé, le 79 Inter.
Au programme également, des jeunes de banlieue qui ne croient plus à l'ascenseur social. Le début de la 4e semaine au procès Mera. Des Marseillais à 2 doigts de l'exploit face au PSG. Et enfin, le sourire d'un grand photographe africain, Malik Sidibé. Comme 2 joueurs de poker en fin de partie, Madrid et Barcelone sont en train d'abattre leur dernière carte. Madrid a donc brandi ce week-end son atout majeur, l'arme atomique, le fameux article 155 de la Constitution permettant la mise sous tutelle de l'administration catalane. Le chef du gouvernement espagnol a encore besoin d'un vote du Sénat. Ce sera vendredi, un vote sans surprise puisque Mariano Rajoy dispose d'une large majorité. L'incertitude est désormais dans le camp des Catalans. Que vont-ils décider cette semaine? Le Parlement de Barcelone doit se réunir d'ici vendredi. Dans l'hypothèse d'une déclaration d'indépendance unilatérale, c'est alors l'autonomie de la région qui serait suspendue par Madrid, avec par exemple une mesure très lourde symboliquement, la mise en coupe réglée des médias publics jugés trop partisans par Madrid. Reportage au sein de la télé catalane TV3, Mathilde Dehimi.
TV3 était dans le viseur de Madrid depuis longtemps. Couverture partisane du référendum, dit Rajoy. Roser Mercader, l'une des plus anciennes salariées, ne s'attendait pas à une reprise en main si rapide.
De l'indignation et du dégoût, de la surprise aussi de voir qu'ils ont choisi de s'attaquer à cet objectif si sensible que sont les médias de service public.
Le directeur Vicente Sanchez tente de rassurer ses équipes, même si bientôt il ne sera peut-être plus là.
Comme ils sont complètement obsédés par nous, parce qu'ils nous voient comme leur pire ennemi, ils disent qu'on a endoctriné les enfants et qu'on diffuse de fausses informations. Alors oui, il y a des chances qu'on me destitue.
Ramon Pellicer est le Laurent de la housse locale. Il a connu de nombreux directeurs remplacés au gré des différentes majorités au Parlement catalan, mais aujourd'hui, avec l'article 155, c'est différent.
Les hommes politiques qui veulent l'appliquer espèrent retrouver la neutralité. TV3 est un média neutre. Si on change de chef et qu'il me dit « Non, tu ne peux pas ouvrir ton journal avec cette info », si je pense honnêtement qu'il faut le faire, alors là, oui, on a un problème.
La rédaction n'envisage pas de démissionner, plutôt de désobéir. Montse Castani du service politique.
Il y a consensus au sein de la rédaction pour continuer notre travail comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. En cas d'attaque, on réagira.
Les associations de journalistes, même les plus critiques envers TV3, ont apporté leur soutien au nom de la liberté d'expression. Barcelone, Hélène Langlois, Mathilde Dehimi, France Inter.
L'interminable feuilleton, l'historique de la crise catalane à retrouver sur franceinter.fr. L'art ne parle pas d'indépendance mais d'autonomie. En Italie, la Vénétie et la Lombardie se sont prononcées largement en faveur d'une autonomie renforcée. 95% de oui en Lombardie, 98% en Vénétie, avec une participation importante selon les organisateurs des référendums, plus de 40% dans les deux régions. En bref, encore à l'étranger, large victoire de Shinzo Abe aux élections législatives japonaises, qui devrait lui permettre de lancer une révision de la constitution pacifiste de l'archipel. On en reparle à la fin de ce journal dans la chronique d'Anthony Bélanger.
L'autre actualité du jour, Sébastien, c'est la réforme de la très sensible directive sur les travailleurs détachés.
Ce système permettant à des Européens de travailler dans un autre pays que le leur, tout en cotisant dans leur pays d'origine. Emmanuel Macron en a fait un des marqueurs de son engagement européen. Il souhaite voir limiter ce qu'il considère comme un dispositif favorisant le dumping social. Les 28 ministres du Travail se réunissent aujourd'hui à Luxembourg pour tenter de trouver un compromis. Pas facile vu l'opposition farouche, notamment de la Pologne. Sur la table, Quentin Dickinson, plusieurs points de crispation.
Sur la base du texte révisé de la directive proposée par la Commission européenne, la Commission des affaires sociales du Parlement européen a fourni la semaine dernière une version plus contraignante. C'est ce matin aux 28 ministres de l'Emploi, de leur côté, de tenter d'atteindre un accord Est-Ouest sur les travailleurs détachés. La première difficulté, c'est la durée maximum du détachement pour chaque individu ou pour chaque chantier. 2 ans selon la Commission européenne, une seule année si l'on suit les principaux pays de l'Ouest, France et Allemagne en tête. Deuxième obstacle, le laps de temps autorisé pour que chaque pays applique chez lui la future directive révisée. Sans surprise, les pays de l'Est réclament une période d'adaptation longue, 5 ans, alors que ceux de l'Ouest insistent à la limiter à 2 ans. Si l'on voit bien comment le travail détaché s'applique par exemple au BTP, le cas du transport routier est plus complexe. Le compromis consisterait ici à continuer à appliquer la directive actuelle en attendant l'arrivée d'une loi européenne spécifique pour ce secteur. Quentin Dickinson, France Inter. À Luxembourg.
Un autre grand chantier économique franco-français, celui-là. Comment transformer, développer les entreprises? Une loi est en préparation, prévue pour le printemps prochain. Et les travaux préparatoires commencent aujourd'hui à Bercy avec 6 chantiers de discussion entre des entrepreneurs et des parlementaires. Au menu, intéressement des salariés, financement ou numérisation. Pendant que Bercy réfléchit aux entreprises de demain, l'Élysée tente d'apaiser les salariés d'aujourd'hui et en particulier ceux de GMES, furieux après la sortie d'Emmanuel Macron. Sur ceux qui foutent le bordel, une délégation sera reçue cet après-midi par les conseillers du président. La semaine s'annonce également chargée pour la ministre de la Santé. Agnès Buzyn va devoir défendre le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale dès ce mercredi. Et la ministre met la barre très haut. 3 milliards d'économies supplémentaires à réaliser avec dans le viseur les hôpitaux. La ministre veut fermer des lits et surtout s'attaquer à un système devenu synonyme de course à la rentabilité à l'hôpital. La tarification à l'activité. En clair, plus on fait d'actes, plus on a de budget. Hélène Philly.
C'est un système qui lie le budget des hôpitaux à l'activité. Et la ministre le reconnaît, il pousse aux actes inutiles. Agnès Buzyn souhaite donc recentrer la tarification sur la pertinence des soins et récompenser les hôpitaux vertueux avec un bonus. S'ils renoncent à une opération pour un traitement moins lourd et tout aussi efficace, en gros, s'ils respectent un indice de qualité. Là où elle se trompe, estime André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est qu'elle laisse entendre qu'il faut payer pour cette qualité.
C'est la politique de la carotte, du bonus. Ça n'a pas de sens parce que vous allez faire des indices de qualité. Et alors, qu'est-ce que vous allez observer? Ce qui a été observé en Angleterre comme aux USA, où ça a été mis en place, eh ben, les soignants se mettent à soigner l'indice plutôt que le malade. On envoie un message effrayant.
On ne sort donc pas de la logique financière pour le professeur, tellement complexe déjà que les hôpitaux embauchent des codeurs pour faire les calculs et envoyer la facture à la Sécurité sociale. La Fédération hospitalière de France estime de son côté que c'est une bonne piste. À l'heure où l'on parle de plus en plus de prévention, elle estime par exemple qu'une consultation qui prend 1 heure devrait être mieux rémunérée qu'une consultation de 20 minutes.
Hélène Philly du service économique de France Inter.
8h08, la France recrute, la croissance revient, mais pas pour tout le monde.
Et pas pour les jeunes de milieux modestes, ceux qui vivent en banlieue ou en zone rurale. D'après une enquête Ipsos, ces jeunes sont une majorité à penser que l'ascenseur social ne fonctionne plus pour eux. 60% le pensent. Le plus grand obstacle à leurs yeux, c'est l'absence de réseau. Le reportage de Sébastien Sabiron.
Né au Sénégal, Mansour a grandi à Dax dans les Landes. Famille modeste, études brillantes, un master de management en poche. Il monte à Paris pour trouver un job, mais il lui manque un ingrédient essentiel.
En arrivant de Dax, j'avais pas plus de réseau que ça. Malheureusement, sans réseau, c'est un peu au petit bonheur la chance. On peut aller vers Pôle emploi, on se retrouve vite à se dire que rien n'est fait pour nous et à se décourager. Donc en fait, la quête est beaucoup plus longue.
Mansour est accompagné par l'association NQT, nos quartiers ont des talents, une aide ciblée à la recherche d'emploi et surtout un système de parrainage qui compense l'absence de réseau. Originaire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, Redouane a bénéficié d'une marraine hautement qualifiée.
C'était une responsable RH chez Google. Du coup, elle m'invitait chez Google au sein des bureaux pendant quelques mois de manière mensuelle. On faisait un rendez-vous. Plus qu'une mise en relation directe, c'était vraiment me donner les armes et les outils pour vraiment savoir comment mieux me vendre.
10 000 parrains et marraines travaillent avec NQT, des cadres, des dirigeants d'entreprises, tous bénévoles. Yazid Chir, le président de l'association.
Les jeunes que l'on accompagne, c'est des jeunes qui ont Bac plus 3 et au-delà. C'est des postes, en fait, qui s'obtiennent pour 80% via le réseau. Donc sans réseau, c'est clair qu'on divise par 5 leurs chances de trouver un emploi à la hauteur de leur diplôme.
Depuis 11 ans, l'association a accompagné 38 000 jeunes. 70% d'entre eux ont trouvé un emploi à hauteur de leur qualification.
Sébastien Sabiron, La République En Marche se cherche un premier de cordée. Il reste une dizaine de jours aux candidats pour se faire connaître. Le parti du président a jusqu'au 18 novembre pour trancher cette question décisive. Décisive car il lui faut un parti en ordre de marche pour lancer le deuxième train de réforme. Laurence Perron.
En Marche, saison 2, c'est un président qui descend de l'Olympe, mais c'est aussi un groupe en ordre de bataille, l'Assemblée nationale, et un parti beaucoup plus incarné. Richard Ferrand, classé, délivré, libéré et même ovationné par ses pairs, depuis que la justice l'a dédouané pénalement dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand donc, l'architecte en chef de la Macronie, est de retour et il espère jouer à nouveau un rôle dans la lumière. Patron d'un groupe de plus de 300 députés qui réagissent comme un seul homme aux stimuli de l'Élysée, il a donné et il verrait d'un très bon œil se faire remplacé à ce poste par l'impétueux Benjamin Griveaux. Le problème, c'est que ce dernier, le secrétaire d'État rattaché au ministère de l'Économie, n'a pas du tout envie de quitter le gouvernement, ou alors, éventuellement, pour diriger le parti. Mais là encore, l'ex-strauss-kahnien, qui laisse entendre qu'il se verrait bien maire de Paris en 2020, a fini par inquiéter le président. Et des proches du chef de l'État font savoir que le garçon agace. Et que s'il est question de faire monter des jeunes, il y a aussi, je cite un ministre, les excellents secrétaires d'État Julien de Normandie à la ville ou Brune Poirson à l'écologie.
Laurence Perron, le retour des incendies en Corse, 2000 hectares de garrigues et de forêts ravagées en Balagne. Le feu ne progresse plus à l'heure qu'il est.
Il est 8h12, le procès Mera dans sa dernière ligne droite.
Quatrième semaine de débat qui commence aujourd'hui avec toujours cette question qui plane et qui menace la sérénité des audiences. Peut-on juger les attaques terroristes de Montauban et de Toulouse sans la présence du tueur lui-même, sans la présence de Mohamed Mera? En son absence dans le box, c'est son frère, en effet, Abdelkader Mera, qui fait office d'accusé principal. Et il sera à nouveau interrogé cette semaine autour de sa complicité présumée, une complicité qu'il réfute point par point. Sophie Parmentier.
Abdelkader Mera caresse de temps en temps sa longue barbe brune quand il répond d'une voix presque douce et d'un ton particulièrement courtois à Monsieur le Président. L'accusé Mera s'applique à montrer à la cour d'assises l'unique visage d'un musulman orthodoxe. Je reconnais que les lois légiférées par le Créateur, qui est Allah, dit-il. Depuis 3 semaines, il répète qu'il n'est pas complice des 7 assassinats commis par celui qu'il ne cesse d'appeler tendrement son petit frère, tout en le traitant de terroriste. Quant à Jean-Michel et Fabien Klein, qu'il a fréquenté à Artigat et Toulouse, devenus les voix de revendication des attentats du 13 novembre, ce sont des frères de religion, selon Abdelkader Mera, qui commence tout doucement à se trahir, estime Maître Tamalé, avocat de la famille d'un des soldats tués à Montauban.
Son château de cartes commence à s'effondrer, et on a maintenant Abdelkader Mera confronté aux limites de sa théorie d'un islam salafiste qu'il appelle orthodoxe et qui serait dissident par rapport à tous ses frères, tous ceux avec qui il a grandi, tous ceux avec qui il a appris cette foi et qui, eux, ont tous déjà été presque mis en cause dans des affaires de terrorisme extrêmement graves et sont reconnus comme des passerelles vers le djihadisme international et vers le pire des terrorismes internationaux.
Les derniers interrogatoires d'Abdelkader Mera auront lieu cette semaine, puis la cour entendra le soldat Loïc Liber, tétraplégique depuis que Mohamed Mera lui a tiré dessus.
Un mot de sport et ce match fou hier entre l'OM et le PSG, le fameux Classico qui pour la première fois depuis 2011 a failli basculer en faveur des Marseillais. Il menait 2-1 jusqu'à la dernière minute. Les Parisiens ont donc été sauvés in extremis par un coup franc de Cavani. Écoutez la déception de Florian Thauvin, l'attaquant de l'OM, au micro de Sébastien Hazard.
Quand il y a 2-1 à la 90e minute et que vous encaissez un but au dernier moment, forcément il y a de la frustration. Après, si hier on nous avait dit que l'on ferait 2-2 aujourd'hui, je pense qu'on aurait signé. Donc c'est un sentiment un peu mitigé, mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que l'équipe a affiché un état d'esprit remarquable. C'était un match magnifique. Nous, on a pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Je pense que les supporters ont pris énormément de plaisir aussi en tribune et je pense que tout le monde est fier de nous ce soir.
Un match également marqué par l'exclusion du très nerveux Neymar après 2 cartons jaunes.
On termine avec une exposition qui fait du bien.
Ouais, l'hommage à l'une des grandes figures de la photographie africaine, le malien Malik Sidibé, mort l'an dernier à 80 ans. La Fondation Cartier lui consacre une grande rétrospective, un voyage plein de gaieté dans l'Afrique des années 60, 70 et 80. Stéphane Capron.
Souriez ! Pour qu'elle soit vivante, il faut sourire. Quand on entre dans la première salle de l'exposition, on pénètre dans le studio de Malik Sidi Bé. On peut d'ailleurs s'y faire prendre en photo, comme les centaines d'habitants de Bamako qui se sont fait tirer le portrait pendant des années. Malik Sidi Bé a été le témoin de la jeunesse malienne qui découvre la liberté après l'indépendance dans les années 60. La journaliste Brigitte Ollier est la commissaire de l'exposition.
Il était très fier de son travail, fier de l'avoir fait comme il souhaitait le faire, d'avoir toujours respecté à la fois les gens qui venaient se faire photographier et à la fois toute cette jeunesse qu'il a photographiée, tout autant que son travail de portraitiste dans le studio qu'il avait à Bagadaji. C'était vraiment quelqu'un qui s'est attaché à la jeunesse. Ça correspondait à sa propre joie parce que c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux.
Et cette joie de vivre, cette insouciance, elle transpire dans toute l'exposition car Malik Sidi Bé avait toujours le sourire aux lèvres.
Pour moi, la photo, c'est une gaieté. À chaque fois qu'on regarde une image, si vous trouvez la personne triste là-dedans, ça ne me plaira pas. Mais si vous trouvez qu'il rit, c'est plus vivant.
L'exposition se visite en musique avec une playlist des grands standards du rock, du twist et bien sûr de la musique africaine.
Bon, souriez encore, souriez. Voilà. Attention. Voilà, c'est bon.
La musique du grand musicien malien Ali Farka Touré et le sourire donc de Malik Sidi Bé en rétrospective jusqu'au 25 février à Paris à la Fondation Cartier.
Et c'était le journal de Sébastien Logeni. Merci.